Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 83 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. En cas de doute, prêchez la violence. Très souvent, on constate que si une personne n'est pas sûre de la manière dont quelque chose serait accompli si les gens étaient laissés en liberté, cette personne va préconiser un plan autoritaire imposé par la force. Par exemple, si quelqu'un a du mal à imaginer comment fonctionnerait un système routier entièrement privé, il préconisera généralement un plan gouvernemental financé par la coercition. S'il n'est pas sûr que des personnes libres puissent se défendre sans armée permanente, il préconisera probablement une solution militaire autoritaire financée par des impôts coercitifs. Ceux qui croient au gouvernement prônent la violence par défaut. Il suffit d'un peu d'incertitude et d'ignorance pour que l'individu moyen préconise un plan de gouvernement coercitif pour à peu près n'importe quoi. Ce n'est pas ainsi que les gens se comportent dans leur vie quotidienne. L'individu moyen ne se lance pas dans des actes de violence contre tous ceux qu'il rencontre, simplement parce qu'il n'est pas sûr que ces derniers se comporteront correctement et prendront les bonnes décisions. Mais c'est précisément ce que font la plupart des étatistes par le biais du gouvernement. Ils préconisent le contrôle généralisé et forcé de millions d'êtres humains simplement parce qu'ils ne sont pas entièrement sûrs que les gens, s'ils étaient laissés en liberté, dépenseraient leur argent comme ils le devraient, traiteraient les autres comme ils le devraient, trouveraient des solutions pacifiques et efficaces aux problèmes, etc. Grâce à la superstition de l'autorité, les étatistes peuvent confortablement prôner la soumission violente de leurs voisins, simplement parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont leurs voisins se comporteraient sans être contraints. Et ceux qui ont soif de pouvoir exploitent ce fait à leur avantage. Tout ce que l'homme politique doit faire pour obtenir le soutien d'une prise de pouvoir autoritaire, c'est dire au public que les choses pourraient très bien ne pas fonctionner s'il laissait les gens en liberté. Il n'a même pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose de malhonnête, de malveillant, de négligent ou de destructeur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de suggérer la possibilité que si les gens sont laissés en liberté, de mauvaises choses pourraient se produire. Étant donné que les partisans de la violence gouvernementale ne considèrent pas la loi comme une violence, le seuil à partir duquel ils soutiendront une solution autoritaire est très bas. Ceux qui ont soif de pouvoir peuvent simplement suggérer qu'un plan gouvernemental pourrait aider quelqu'un quelque part et de nombreuses personnes approuveront la violence légale sur la base de cette seule prémisse. Une grande partie de la violence gouvernementale est basée sur des suppositions quant à ce qui pourrait se produire en conséquence de ce que les gens pourraient faire. Par exemple, une grande partie de la coercition exercée par l'État au nom de l'environnementalisme repose sur l'idée que l'État doit contrôler par la force les choix de chacun, parce que dans le cas contraire, les gens pourraient faire des choix qui contribueraient au réchauffement de la planète, à la disparition des forêts tropicales, à l'extinction des animaux, etc. Peu de gens, agissant de leur propre chef, commettraient une agression sur la base d'une supposition concernant les conséquences indirectes possibles des actions non malveillantes et non violentes d'autres personnes. Pourtant, c'est une pratique courante dans la politique des gouvernements. Un autre exemple de la promotion de la violence gouvernementale par défaut est la pratique consistant à empêcher par la force les étrangers de mettre le pied dans un pays sans l'autorisation écrite de la classe dirigeante de ce pays. De telles lois sur l'immigration créent quelque chose qui s'apparente à la mentalité guerrière, où une catégorie démographique entière de personnes est criminalisée et diabolisée et soumise à des actes d'agression sur la base d'inquiétudes concernant ce que certaines de ces personnes pourraient faire. Les gens estiment que de nombreux illégaux sont des criminels ou viennent dans le pays uniquement pour recevoir des avantages. Quelle que soit la fréquence de ces allégations, le résultat est que tous les illégaux, toute personne se trouvant dans le pays sans l'autorisation des politiciens, se retrouve cible de violence. c'est le résultat de la culpabilité par association de la mentalité de meute. Il va sans dire que le recours à la violence contre une personne parce qu'elle est de la même ethnie ou du même pays ou d'une autre manière similaire à quelqu'un d'autre qui a effectivement causé du tort est totalement injustifié. Il convient de noter que les tentatives du gouvernement de réprimer l'immigration illégale se traduisent également par des agressions à l'encontre de nombreux résidents légaux ainsi que des illégaux au point de contrôle des patrouilles frontalières dont beaucoup ne sont même pas situés aux frontières. Le fait d'arrêter et d'interroger tous ceux qui circulent sur une route parce que quelqu'un pourrait s'y trouver illégalement est précisément le type d'agression injustifiée couramment commise par les agents du gouvernement et rarement par d'autres personnes. Cette violence par défaut se manifeste également dans les fouilles et les interrogatoires intrusifs de toute personne qui tente, ici dans le pays de la liberté, de prendre l'avion. Le fait que le propriétaire d'un avion pose des conditions à quiconque souhaite prendre son avion, et cela s'appliquerait également à un train, à une voiture ou à toute autre chose, est très différent du fait qu'une tierce partie empêche par la force quiconque de prendre n'importe quel avion dans n'importe quel pays, à moins que les passagers potentiels ne se soumettent d'abord à des interrogatoires, à des fouilles de leurs bagages, voire à des fouilles de leur corps à nu, par des agents de la tierce partie. Les gens ne toléreraient jamais qu'un particulier se comporte de la sorte, avec l'attitude « je ferais mieux d'imposer ma volonté à tous les autres au cas où », mais pour les agents de l'autorité, cette tactique est monnaie courante. Et les gens s'imaginent que c'est légitime. En fait, ils exigent souvent que l'autorité fasse de telles choses. Dans la vie de tous les jours, le type de comportement par défaut de la plupart des gens est la non-violence. Bien qu'il y ait parfois des conflits physiques, la plupart des gens s'efforcent de les éviter, non seulement en essayant de ne pas déclencher une bagarre, mais aussi en essayant de désamorcer les situations tendues. Même lorsqu'une bagarre éclate, les deux parties finissent généralement par y mettre fin. Chaque jour, des milliards de personnes trouvent des moyens de coexister pacifiquement, même lorsqu'elles ont des croyances, des attitudes et des points de vue très différents. Mais il s'agit là de leur vie personnelle. Lorsqu'il s'agit de politique, la violence est la règle par défaut. Chaque électeur, dans une mesure plus ou moins grande, cherche à ce que ses opinions et idées personnelles soient imposées de force à tous les autres par le biais du mécanisme du gouvernement. La conduite de base n'est pas de laisser les autres faire ce qu'ils veulent ou d'essayer de s'entendre pacifiquement. La conduite par défaut est de prôner l'agression contre absolument tout le monde par le biais de la coercition autoritaire appelée loi. Il y a un fossé énorme entre ce que la personne moyenne considère comme un comportement civilisé sur une base individuelle et ce qu'elle considère comme légitime et civilisé lorsqu'il s'agit des actions de l'autorité. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse se comporter dans sa vie personnelle comme les électeurs se comportent lorsqu'il s'agit de politique. Une telle personne volerait constamment à d'autres, amis ou inconnus, d'énormes sommes d'argent pour financer des choses qu'elle juge importantes et utiliserait la menace, la force physique, en allant même jusqu'à l'enlèvement, pour contraindre les autres à prendre les décisions qu'elle pense être les meilleures pour ses victimes ou pour la société en général. En bref, quiconque agirait dans sa vie privée comme tous les étatistes agissent dans l'arène politique serait immédiatement reconnu comme un brigand, un voleur et un fou. Mais faire exactement la même chose par l'intermédiaire du gouvernement, prôner l'extorsion de masse et la brutalité, est accepté par la plupart comme quelque chose que les gens normaux et civilisés devraient faire. En fait, ils parlent parfois du vote comme d'un devoir, comme s'il était immoral de ne pas prôner le contrôle coercitif de ses voisins. Étonnamment et ironiquement, les seules personnes qui ne prônent pas la violence et la coercition généralisée et constante par le biais du gouvernement, et qui veulent au contraire que les relations humaines se fassent par consentement, les anarchistes donc, sont généralement considérés par la majorité comme des personnes bizarres, non civilisées et dangereuses. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire sur iTunes, ça rend le podcast plus visible et ça aide donc les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », comment le mythe détruit la vertu.